Qu'est-ce qu'il faut regarder en ce moment pour en savoir un peu plus long où nous en sommes dans l'évolution de cette pandémie? Y a-t-il véritablement ce qu'on appelle une deuxième vague? Et évidemment, il faut se tourner vers des indicateurs, des chiffres. Mais là, il y a beaucoup de gens qui notent que si nous sommes face à un coronavirus très, très, très transmissible, on n'arrête pas d'identifier au quotidien le nombre de nouveaux cas. On dit que c'est un nouveau record en Ontario, nouveau record au Québec, par rapport d'ailleurs à cette première vague, si on peut l'appeler ainsi. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder comme indicateur? Parce que beaucoup de gens demeurent sceptiques en disant « Oui, il y a une contagion, c'est un virus, un coronavirus très contagieux, mais il y a peu de décès comparativement à cette première vague de mars, avril et même mai dernier. » Eh bien, c'est le travail du professeur titulaire de l'École de santé publique au département de médecine sociale et préventive, Benoît Mas, à qui nous avions déjà parlé lors de cette première vague, d'analyser ces chiffres et tenter de décoder où doit-on regarder et quels sont les tableaux les plus importants. Benoît Mas, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut regarder et s'inquiéter? Parce qu'on insiste beaucoup, pas seulement au Québec, c'est le cas aussi des autorités sanitaires en Europe. On insiste en ce moment terriblement sur le nombre de cas, de transmission des cas, si on veut, au quotidien. Mais il y a beaucoup de gens qui notent qu'il y a beaucoup moins de décès, même si nous avons beaucoup plus de cas. Qu'est-ce qu'il faut regarder?
Bon, en fait, il faut regarder plusieurs indicateurs. L'analogie que je fais souvent, j'ai dit, ben, si on veut savoir, par exemple, la situation économique au Québec, on va pas regarder seulement un indicateur. On va falloir en regarder plusieurs pour avoir vraiment un portrait. Alors, c'est la même chose avec l'épidémie, cette deuxième vague-là. On peut regarder, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis. Les infections sont arrivées en premier et c'était un peu l'argument de Trump, là, souvent qu'on entendait que, ouais, ben, c'est, les gens s'infectent plus parce qu'on teste plus, mais il n'y a pas d'hospitalisation puis il y a moins de décès. Alors, il y a une séquence de choses qui arrivent et qui sont décalées. Alors, en premier, on observe une augmentation des infections. En deuxième, vient l'augmentation des hospitalisations. C'est ce qu'on commence déjà à voir. Là. C'est clair, si vous allez sur les... Vous regardez les courbes, qu'il y a clairement au Québec une augmentation substantielle des hospitalisations. Puis après, les hospitalisations suivent les décès. C'est exactement ce qu'on a remarqué, par exemple, quand ce qui est arrivé aux États-Unis. On a vu les hospitalisations monter. Et après ça, les décès sont arrivés. Déjà, aussi au Québec, lorsqu'on regarde, les décès commencent à monter aussi. Alors, ils suivent les hospitalisations avec un certain retard, mais ça va arriver. Et si on n'arrête pas les infections, les hospitalisations vont continuer à monter dans cette deuxième vague-là et les décès vont suivre.
Le gouvernement, et M. Legault le disait hier, il est inquiet d'une chose, même s'il se disait un peu plus optimiste hier, parce que le nombre de cas était demeuré relativement calme. Il dit on n'est pas passé à 2000 par jour, on est à peu près à 1100 ou 1000. Mais déjà, on projette sur novembre, mi-novembre jusqu'à la fin novembre, sur la capacité du système de santé à répondre aux besoins, mais pas seulement aux besoins de COVID, aux besoins de la santé en général.
Oui, c'est un peu ce qu'on a fait pour la première vague. On a vraiment, on s'est préparé à recevoir énormément de cas COVID dans les hôpitaux. Et une des façons qu'on a fait ça, c'est en retardant ou en décalant des chirurgies, des interventions. Alors là, on peut pas faire ça indéfiniment. Ce qu'on a retardé, il faut le faire. Ça devient absolument urgent. Donc, d'une certaine façon, dans cette deuxième vague-là, on a moins de capacité à recevoir des cas COVID. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. Et le gouvernement ne veut pas se rendre au point. Ils doivent encore décaler ces interventions-là. Donc, d'une certaine façon, oui, on a beaucoup moins d'hospitalisations que la première vague. Mais on ne veut pas se rendre à ce point-là parce qu'on va être obligé de décaler une autre fois et on ne peut plus. On s'est donné cette marge-là, si on veut, à la première vague, mais là, on ne peut vraiment pas faire ce décalage-là une autre fois.
Mais le gouvernement donne peu d'informations. Pourtant, il fait des points de presse au quotidien. Le docteur Arruda est là, souvent le premier ministre, enfin en général, le premier ministre est là, ministre de la Santé. Beaucoup de gens déplorent qu'on n'ait pas une confirmation statistique ou mathématique des mesures très importantes qui sont annoncées, qui ont des répercussions terribles. Fermeture des salles à manger de restaurants, situation précaire pour des opérateurs de bars, de gyms. Bref, les zones rouges, le masque à l'école sont des conséquences humaines très graves, mais peu appuyées et expliquées à la population. Sur quoi se base-t-on pour en arriver à cette projection?
Je pense que vous avez raison. Si on compare avec la première vague, c'était nettement mieux expliqué, l'aplatissement de la courbe. Tout le monde l'a compris. Pourquoi c'était important de réduire les contacts, tout le monde l'a compris. Et la réponse des Québécois a été très forte. On a réussi vraiment à l'aplatir, cette courbe-là, puis à réduire nos contacts. Là, c'est vraiment plus délicat et un peu plus difficile à expliquer parce qu'on est déjà partiellement confiné. Donc, et là, on nous demande de réduire nos contacts. Là, on parlait de réduire de 25 à 30 % là, c'est le même chiffre que le docteur Teresa Tam nous a donné aussi. Et là, moi, pour vous dire, dans ma boîte de courriel, j'ai plein de Québécois qui m'écrivent et disent ben, « Comment voulez-vous que je réduise 30 % de mes contacts? Je fais déjà presque rien. Je vais pas au restaurant, je fais pas ci, je fais pas ça. » Ça devient très difficile, ce qui était beaucoup plus facile à réduire les contacts dans la première vague, parce que bon, on menait une vie normale, puis on pouvait se dire, ben ça c'est non essentiel, je peux couper ça, ainsi de suite. Alors c'est clair que vous avez raison, on aurait besoin de plus d'informations.
Oui, pour justifier des décisions qui bouleversent nos vies.
Oui, et expliquer aussi bien qu'on le fait à la première vague, pourquoi on voulait aplatir cette fameuse courbe-là. C'est quoi cette courbe-là aussi? Hein? Je pense qu'il y a plein de Québécois au début qui disaient « c'est quoi cette courbe-là qui parle? » Alors là, c'est certain qu'on aurait besoin de comprendre pourquoi, par exemple, les événements extérieurs sont interdits, par exemple. Ce qu'on sait du virus, c'est ce que la population sait présentement. Les Québécois savent que le virus se propage nettement mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, on devrait pouvoir faire des activités à l'extérieur. On devrait être capable de rencontrer des gens à l'extérieur. On devrait essayer de comprendre pourquoi les barbecues dans notre cour ne sont plus... Bon, vous allez me dire, là, l'hiver va s'en venir. De toute façon, on ne pourra plus les faire. Là, mais essayer de comprendre les décisions. Et aussi, il faut comprendre qu'on ne pourra pas éternellement étouffer la population au niveau social, au niveau culturel, puis au niveau sportif. À un moment donné, ils vont se déconfiner eux-mêmes. Et là, ils vont se déconfiner dans des activités qui ne seront pas encadrées. Alors, une chose que moi, je propose, c'est de dire, bon, OK, on est... là, on parle de la deuxième vague, mais on va avoir un hiver assez difficile, avec un printemps assez difficile, pour contrôler les vagues subséquentes, les éclosions subséquentes, lorsqu'on aura passé à travers cette vague-là. Alors, moi, ce que je parle d'activités encadrées, ben si on parle par exemple des restaurants, on peut contrôler le nombre de personnes par table, on peut contrôler le nombre de personnes dans le restaurant. On a des listes de clients aussi. On peut envoyer des inspecteurs. On peut adopter une tolérance zéro pour ceux qui suivent pas les règlements. On peut leur bannir leur licence pendant un mois s'il faut. Et ça, c'est des activités encadrées où on permet un certain niveau de d'activité sociale à la population, mais c'est très encadré. Si on les coupe, puis si on les coupe pendant longtemps, mais ce qui va arriver, c'est que ces soupers-là vont se faire à l'intérieur dans nos maisons où on n'a absolument aucun contrôle. Oui, on peut envoyer la police, mais ça va être excessivement difficile à contrôler. Et c'est la même chose pour les sports. Si on regarde le hockey, surtout le hockey chez les jeunes, dans les arénas, ben là aussi, on peut contrôler. L'espace dans les vestiaires, on peut contrôler qu'il n'y a pas de parents dans l'aréna, on peut contrôler qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de réunion, ainsi de suite, et on laisse les activités se faire, mais dans un milieu très encadré. Ouais. Et si jamais ce milieu-là est responsable d'éclosion majeure, ben là, on réfléchira à le fermer. Ça, c'est l'autre chose que les Québécois ont beaucoup de difficultés, et moi-même, c'est d'avoir fermé des activités qui n'étaient pas vraiment associées à des éclosions majeures.
Parce que, Benoît Mars, en conclusion, et vous l'avez dit vous-même, et vous en aviez parlé d'ailleurs au tout début de la pandémie, vous dites, on ne peut pas garder en confinement perpétuel toute une population sans que cela soit expliqué, justifié. Et le chaînon manquant, malheureusement pour le gouvernement, ces temps-ci, c'est que ces décisions qui bouleversent des vies, et qui sont critiquables d'ailleurs au demeurant, ne sont pas expliquées et basées et expliquées à la population sur des faits précis, statistiques, courbes, et voici pourquoi nous prenons telle décision.
Exactement. Alors, si on comprend, comme la première vague, c'est vraiment le bon exemple, quand tout le monde a fini par comprendre, là, avec des explications, hein. Il faut vous souvenir des explications qu'on a eues avec graphiques à l'appui, et ainsi de suite.
On a eu les mouvements du Dr Arruda, le mouvement pour aplatir la courbe.
Oui. Et mais là, ben, présentement, on a des conférences de presse qui sont assez, des points de presse qui sont assez expéditifs. Les explications sont très, très courtes. Lorsque les journalistes posent des questions, on a des réponses excessivement vagues.
Oui, ouais. Et non seulement ça, quand les journalistes posent maintenant de plus en plus de questions, disons incisives, mais des questions nécessaires, on sent une certaine fatigue ou une certaine fragilité de la part des intervenants par rapport à ce que c'était au printemps dernier.
Oui, les questions des journalistes, c'est le reflet de la population.
Bien sûr.
C'est pas eux qui les inventent. Hein. C'est moi aussi, ce que je fais, c'est que je regarde la quantité de courriels que j'ai avec les questions des personnes, des Québécois qui me demandent pourquoi ils font ça. Je comprends pas, pouvez-vous m'expliquer? Puis moi, c'est malheureux. Autant que je pouvais donner des explications à la première vague, souvent je me retrouve à répondre, écoutez, je comprends pas non plus, j'aurais pas de difficulté. Soit qu'ils anticipent un problème, soit qu'ils ont d'autres informations. Mais là, sur la base de ce qui a été dit, malheureusement, je peux pas vous donner d'informations. Moi-même, je me pose la question.
Ben, on se pose tous la question. Et ça a été très intéressant, Benoît Masse. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Benoît Masse, à qui nous avions parlé très tôt, d'ailleurs, au début de la pandémie, au printemps dernier, École de santé publique, il est professeur titulaire.